Dimanche prochain, c'est Pâques. À vue d'esprit vous emmène cette semaine sur un chemin vers cette fête centrale pour la foi chrétienne, un parcours avec des artistes qui font référence à la mort de Jésus dans leur activité artistique. Tour à tour, nous entendrons l'écrivain Jacques Chesset, la directrice de chœur Catherine Bernet, le dessinateur de bande dessinée Alain Auderset et le chanteur de gospel Marcel Bungou. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle série à vue d'esprit, ravi de vous retrouver.
À vue d'esprit. Pierre-Yves Moret.
La réalisation de cette série est signée Françoise Yenny et c'est Serge Carrel et Gabriel de Sarzan qui vous la proposent. Alors Serge Carrel, c'est avec vous que nous commençons cette semaine. Bonjour.
Bonjour Pierre-Yves.
Alors aujourd'hui, vous nous emmenez sur le terrain de la littérature avec un auteur connu pour parler de la mort de Jésus à cette approche de Pâques. Et vous nous proposez bien sûr de rencontrer Jacques Chesset.
Oui, Jacques Chesset parce que son dernier livre, Un juif pour l'exemple, un livre qui a connu un retentissement tout à fait considérable en Suisse romande, eh bien ce livre se termine par une allusion au Golgotha, à la colline sur laquelle Jésus a été mis à mort.
Et en deux mots, donc ce roman qui s'intitule « Un juif pour l'exemple », il retrace l'assassinat d'un marchand de bétail juif à Payerne en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale.
Effectivement, Jacques Chesset retrace l'assassinat d'Arthur Bloch à Payerne, sa ville natale, donc la ville natale de Jacques Chesset. Mmh. C'est-à-dire si l'écrivain qui habite aujourd'hui Rhopra a connu cet événement de l'intérieur et se sent tout particulièrement concerné par cet assassinat.
Mais alors, nous parlons ici d'un assassinat antisémite. Est-ce qu'il y a un lien avec la mort de Jésus ?
Alors, pas de lien direct, mais une fin de roman que je vous lis. Tout est plaie, tout est Golgotha, et la rédemption est si loin, mais y a-t-il une résurrection ? J'ai donc voulu, par-delà ces paroles un peu mystérieuses, savoir ce que Jacques Chesset voulait dire par là. Et nous nous sommes retrouvés tout près de l'église Saint-Jean à Lausanne, dans une cour de récréation, donc à ciel ouvert, avec, vous allez l'entendre, des bruits de nature et d'oiseaux.
Chaque fois que l'homme souffre, j'ai l'impression de voir le sang ruisseler de la couronne d'épines au front du Christ. Parce que chaque fois qu'un homme saigne, je vois les plaies du Christ. Et parce que je ne peux pas m'empêcher de rapporter la violence de Payerne à un lieu d'exécution où on tue injuste, où un juste meurt pour nous, meurt pour l'exemple. Tout est plaie. En effet, en 1942, tout est plaie. L'Europe est aux mains d'Hitler, et peut-être, s'il n'y a pas Stalingrad, Hitler va s'emparer du monde. Dans la vie que nous menons, nous constatons que l'homme est durement secoué, l'homme est durement mis à l'épreuve. Et alors on peut se poser la question, après la terrible inscription que Miria Bloch a fait inscrire sur la tombe de son mari, « Gott weiß warum, Dieu sait pourquoi, ô ironie !» Oui, Dieu sait pourquoi, mais nous, pourquoi ne le savons-nous pas? Et qu'est-ce que Dieu sait que nous ne savons pas? Et si l'on nous dit résurrection, quel espoir magnifique! Mais s'il n'y en a pas, quelle absence d'espoir épouvantable. Il y a donc là une sorte de carrefour où l'esprit bute, en tout cas où l'esprit hésite, où le doute fielleux s'instille dans ma conscience et dans le cœur de mon lecteur, parce que à ce moment-là, que va-t-il se passer? On n'en sait rien. Et je pense que c'est le pouvoir des romans que d'éveiller ainsi la conscience, de dire « rien n'est sûr, nous ne sommes pas assurés, nous voudrions croire, nous voulons croire que l'homme sera racheté. » Et en même temps, est-ce que ce qui vient de se passer peut être racheté? Est-ce que nous ne sommes pas là dans l'ordre de l'imprescriptible que nous a enseigné Yankelevitch? Moi-même, en écrivant ce livre, j'ai passé par tous ces états. Je suis pourtant profondément attaché, non pas même à l'idée, mais à la notion profonde, à l'intuition et au désir de la résurrection. Mais au moment où j'ai terminé mon livre, j'étais tellement en sentiment d'empathie avec la victime, avec le martyr, que j'en éprouvais comme une espèce de plaie moi-même, comme si j'avais été à la place de celui qui avait été assassiné et coupé en morceaux, et qui maintenant gît, ou dont les restes gisent, dans sa tombe au cimetière israélite de Berne.
Mais là, qu'apporte concrètement cette figure du Golgotha, cette figure du Christ? C'est une figure à laquelle vous-même, vous parvenez à vous identifier? Vous essayez quelque part de rappeler un peu au travers de l'histoire tous les Jésus qui ont été victimes de crimes ignobles?
C'est cela. Je suis très sensible au fait que non seulement Christ est Christ, c'est l'évidence même, et j'allais dire Dieu merci. Mais je l'ai dit ou suggéré tout à l'heure, chaque fois que l'homme meurt dans des conditions atroces, chaque fois que l'homme est humilié, chaque fois que l'homme est maltraité, il y a Golgotha, il y a une nouvelle fois la mort du Christ. J'aimerais vous rappeler cette phrase admirable d'Elie Wiesel. À Auschwitz, Elie Wiesel assiste à la pendaison d'un enfant juif. J'ai bien dit à la pendaison d'un enfant juif. Et un de ses camarades déportés pleure à côté de lui et dit « Dieu est mort, il n'y a pas de Christ, il n'y a jamais eu de Christ. » Et Elie Wiesel le regarde et regarde encore le bourreau, le pendu, la corde qui se balance au vent, et il dit « Non, le Christ existe, le Christ c'est cet enfant. » Et je pense qu'il y a là une assimilation admirable, douloureuse, mais dont notre esprit doit à tout instant être conscient, c'est que chaque fois qu'on humilie l'être, on tue une nouvelle fois le Christ. Comme chaque fois qu'on insulte un juif, ou qu'on insulte quelqu'un qui aide la cause juive, ou qui écrit sur la cause juive positivement, on tue une nouvelle fois Arthur Bloch. Et j'ai fait cette assimilation très volontaire, dans mon esprit elle est même d'ordre théologique. Elle n'a rien de littéraire, elle est pour moi un phénomène, je dirais, essentiel de mon témoignage, c'est qu'il y a vraiment un Golgotha qui est perçu, qui est vécu par moi chaque fois qu'il y a cette exaction-là.
Est-ce que vous rejoignez par là le philosophe Pascal, mathématicien aussi, qui dit que quelque part, quand une injustice est commise, le Christ est en agonie jusqu'à la fin des temps ?
Je pense que cette belle pensée de Pascal est tout à fait à la hauteur de ce que nous essayons de dire ici, ou ce que nous disons ici, ce « is » peut être à la hauteur de Pascal, je ne sais. En tout cas, il y a rencontre. C'est vrai que chaque fois que l'on fait souffrir l'être, on crée une nouvelle fois l'agonie du Christ, et ceci jusqu'à la fin des temps.
Jacques Chessé, toujours à la fin de « Un juif pour l'exemple », vous avez une invocation qui naît là, « Pitié Dieu par la rose du ventre ouvert, pitié par la couronne d'épines et les barbelés des camps, et pitié Seigneur de nos crimes, Seigneur et pitié de nous ». Pourquoi cet appel à la pitié, à la miséricorde de la part de Dieu ?
Parce que l'homme souffre, et parce que le Kyrie, et là, il sonne et de mise chaque fois que l'homme est au fond du gouffre. De profundis clame à vie. Seigneur, j'appelle à toi du fond de l'abîme. Aie pitié. Comment peux-tu admettre, Seigneur, que des hommes, et je suis homme comme eux, aient pratiqué cela quasi sous mes yeux d'enfant, en 42, est-ce possible? Est-ce que tu peux laisser faire? Est-ce que nous devons souffrir cela? Et vous voyez, il y a de nouveau l'assimilation dans mon esprit de la couronne d'épines et puis des barbelés des camps d'Auschwitz. Parce que je pense qu'Auschwitz, depuis la naissance du Christ, est sans doute le fait d'histoire le plus flagrant que l'humanité a connu.
Et qui entraînerait le fait qu'on ne peut plus penser Dieu après Auschwitz ?
Si, on peut penser Dieu après Auschwitz, mais on doit d'abord penser Auschwitz pour pouvoir penser Dieu plus justement. Je pense que le phénomène abominable d'une métaphysique dévoyée, une fois de plus, d'Auschwitz est tel que nous ne pouvons plus, avant et après, penser de la même façon. Les philosophes des abîmes du XVIIe siècle, par exemple, et il y en a eu, Pascal, nous le citions tout à l'heure, mais je pourrais aussi parler de Bossuet ou des immenses poètes, qui étaient aussi des philosophes, comme Racine ou La Rochefoucauld, n'avaient pas connu Auschwitz. Sans doute leur sens aigu du drame humain, leur profonde intuition du tragique, pouvaient comprendre, sans le connaître, Auschwitz. Mais nous l'avons dans notre rétroviseur, si je puis dire. Nous connaissons Auschwitz. Et Auschwitz a beau avoir été fermé, Auschwitz a beau avoir disparu, Auschwitz reste dans la conscience de l'homme occidental, de l'homme du XXe siècle, quelque chose de tellement horrible, de tellement affreux et de tellement impensable du point de vue de l'humanisme, de l'amour de l'autre, de la dignité de l'être, que le peuple juif est véritablement, une fois de plus, le peuple élu parce qu'il a été choisi pour être là la victime et devenir le peuple témoin de cet assassinat collectif qui ne cesse, moi, de me hanter et qui devra sans doute me porter jusqu'au bout.
Et là, concrètement, qu'est-ce que ça change dans votre manière d'appréhender Dieu, le fait d'essayer d'intégrer dans le cadre de votre réflexion Auschwitz ?
Je pense qu'il faut essayer de penser Renaissance. Je pense que si je me confondais en tristesse, en remords, en macération à l'endroit d'Auschwitz, je ne serais pas un bon témoin. Je pense que comme les Juifs libéraux me l'ont appris, je dois essayer de penser, d'imaginer Auschwitz comme un point de départ et non pas comme un aboutissement. Je dois considérer qu'Auschwitz est peut-être la première étape affreuse d'une renaissance possible. Et que si je suis un vrai témoin, un bon témoin de Dieu, du Christ, de l'espoir dans l'être, Auschwitz va m'accompagner, non pas comme une espèce de puits négatif qui me tirera au fond de l'abîme, mais comme un point d'accrochage vers l'absolu, vers la hauteur, vers le ciel, parce qu'Auschwitz est la possibilité de la renaissance qui est en moi aussi. Et c'est en cela que le peuple juif prodigieusement m'aide à vivre et me donne la possibilité de cette renaissance. Merci à la judaïté.
Jacques Chessé, on vient de parler de la mort du Christ comme un peu emblématique de ce que peuvent être les crimes des hommes. Est-ce que vous-même, lorsque vous réfléchissez au Golgotha, lorsque vous réfléchissez à la croix du Christ, vous avez une autre lecture qui peut vous venir à l'esprit ?
Non, je n'en ai pas d'autre. La lecture de la croix, pour moi, c'est toujours la lecture du crime que l'on commet contre l'homme, de la souffrance humaine, de la part sanglante, dégouttante de sang du crâne du Christ percé par l'épine ou le flanc percé par la lance ou encore les saignements que l'on voit dans les peintures du XIVe et du XVe siècle aux mains et aux pieds de Jésus.
Mais vous savez qu'en christianisme, il y a parfois d'autres lectures qui sont avancées, et certains font même le pari de dire que dans le Golgotha, dans la croix de Jésus, il y aurait par exemple révélation de l'amour de Dieu.
Mais ça n'est pas antinomique. Je pense que partout où l'homme souffre, il y a aussi l'espoir immense que cela cesse. L'espoir immense que la résurrection soit possible, que la chair abîmée soit quelque part renaissante et ressuscitée. J'ai une expérience à cet égard qui passe par une grande habitude de la chapelle du Sépulcre à Fribourg, à la cathédrale Saint-Nicolas. Il y a là un motif sculptural du XVe siècle qui est très très sombre, parce que c'est la mise au tombeau dans une chapelle qui est peu éclairée, sinon par deux vitraux très sombres de Manessier. Cette mise au tombeau est tragique. Les saintes femmes, la Vierge, pleurent, le Christ est mort, et on va l'enfouir dans le sépulcre. À ce moment-là, la résurrection n'est même plus imaginable. C'est une chute, la mort du Christ. Et c'est donc la fin. Les disciples qui sont là, ils sont très naturalisés. On les voit qui pleurent, on voit leurs larmes. Ils croient savoir du moins que tout est fini. L'aventure du Christ était une aventure humaine. Elle a été clouée sur la croix et cette aventure est morte avec lui. Et ça me frappe énormément parce que cette chapelle est plongée dans la nuit. Or, la résurrection, c'est Pâques. C'est au troisième jour cette chose immatérielle et inimaginable par l'esprit de l'homme que le corps de l'homme mortel, charnel, va échapper à son humanité pour retrouver l'espace divin qui est le sien. Car le Christ est Dieu. Le Christ est une part de Dieu et le Christ est Dieu. Or, personne ne le sait tout d'abord, sauf ceux qui sont comme peut-être Jean, particulièrement inspirés, ou comme Marie-Madeleine, au matin du troisième jour, qui, rencontrant son maître dans un jardin ou dans le jardin du sépulcre, essaie de le toucher, lequel maître lui dit « Ne me touche pas, pas encore, ne me touche pas. Tu ne peux pas me toucher. » Et ça me bouleverse complètement parce que ça change, comme Auschwitz change la perception de l'homme à partir de la moitié du XXe siècle, ça change la perception de l'humain pour 2000 ans et au-delà, parce que c'est faire d'un morceau de chair humilié, qui était celle qu'on appelait la chair du Christ, une chair immarcessible qui est devenue l'humain même, mais aussi le divin. On représente le Christ sous les traits de l'homme, et il est néanmoins Dieu. C'est une notion difficile à capter par l'esprit. L'esprit n'y peut pas aller. Mais comme je ne suis plus tout à fait jeune, j'ai essayé d'apprendre au cours de mon existence qu'il y a un certain nombre de mystères, certains disent même de scandales, qui n'ont pas de sens dans notre esprit humain. Ainsi l'amour, ou la mort, ou la résurrection. Il faut les admettre comme tels. Et plus on parvient naturellement à les admettre comme tels, pour moi ça a été un assez long chemin, on les considère, une fois qu'on les a reconnus comme tels, comme des éléments absolument immarcessibles de notre foi, de notre existence, de notre être, de notre espoir, de notre désir de l'absolu.
Jacques Chaissez, les critiques de votre œuvre considérables dépeignent en fait vos travaux, votre écriture, votre peinture, aussi votre passion pour la musique autour de trois thèmes, Dieu, la mort et le sexe. Alors, vous avez dit un jour qu'il était plus obscène de voir Dieu dans un barbu torturé sur une croix que dans le sexe des femmes. Comment est-ce que vous revisitez aujourd'hui une telle parole ?
Vous savez, dans les paroles d'un écrivain, il y a toujours une part poétique et rhétorique qui est vraie, qui est parfaitement exacte au moment où il l'écrivent. Mais un poème, c'est comme une peinture, c'est une part par rapport à l'ensemble de l'œuvre, et c'est l'ensemble de l'œuvre qu'il faut voir, qu'il faut consulter, qu'il faut écouter raisonner pour avoir le dernier mot. Mais c'est vrai que j'ai été agacé lorsqu'on m'a fait le reproche d'aimer Dieu dans des éléments physiques, dans des éléments corporels, dans certaines parts du corps d'une femme. On m'a dit, mais comment vous aimez Dieu dans le sexe de votre compagne? Mais quelle horreur! À quoi j'ai répondu, mais est-ce que c'est pire que de le voir dans la barbe torturée du Christ? Est-ce que c'est pire de voir Dieu dans l'admirable forme féminine, dans la poitrine ou dans les fesses, ou dans la forme d'un chat, dans la forme d'un oiseau, dans la forme d'un arbre? Je ne suis pas monothéiste du tout, du tout. Mais je pense que Dieu se révèle à nous par un certain nombre de grandes beautés et de grandes douceurs. D'ailleurs, la laideur est ce qu'on en fait, il n'y a pas de laideur au monde. La laideur n'est jamais laide en soi. Comme saint Thomas disait que le mal n'existe pas, le mal n'est que la privation du bien, dit saint Thomas. Et il a raison. Et j'aimerais être thomiste, là, si vous permettez quelques instants, bien que je sois protestant, mais j'aimerais être thomiste pour dire la laideur humaine n'existe pas. C'est le mal qui existe en l'homme. Au contraire de saint Thomas, je pense que l'homme est un animal pervers et il faut combattre en lui, il faut combattre en nous cette part de déraison qui consiste à nous tuer, à nous détruire, à détruire notre face humaine en tolérant dans l'autre, en tolérant en nous cette part mauvaise qui nous défigure. C'est aussi en cela que le petit livre L'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ mais précieux, parce que il faut essayer, dit ce livre, et j'essaye à ma modeste façon, d'imiter le Christ en toute chose. C'est pas le tout de donner 3 francs ou 4 francs à la crousie de son église, mais il faut essayer aussi toute la journée de donner à l'autre la part qui lui revient. Aime-toi d'abord, oui, bien entendu, sois d'abord maître de toi, pour pouvoir mieux être le serviteur des autres. C'est vrai, mais sois aussi le serviteur des autres. C'est-à-dire, donne-leur la possibilité d'être des autres. Ne les humilie pas. Ne laisse pas cet élève bouche bée, et puis le dernier mot t'appartient. Lorsque j'étais maître au gymnase, je détestais avoir le dernier mot. J'aimais bien parler à mes élèves. Mais dans une conversation, une question de goût, question d'appréciation, question de jugement sur une œuvre, j'aimais les laisser libres de telle manière que eux aient le dernier mot, qu'ils ne se sentent pas humiliés parce qu'on leur avait asséné quelque chose et cloué le bec. Ça, c'est aussi christique. Ça, c'est aussi la part de charité, c'est-à-dire d'amour. Et puis quand vous disiez tout à l'heure que chasser, c'est Dieu, la mort et le sexe, j'aimerais dire le sexe ou l'amour plutôt. Dieu, la mort et l'amour. Parce que le sexe privé de charité, d'amour, n'existe pas. Il n'y a que cette dimension qui fait que le sexe s'élève au-dessus de la machine. Sans quoi le rapport amoureux n'est qu'une partie de gymnastique. Et sans Dieu, sans âme, sans risque d'ailleurs, sans menace, sans imagination de sa propre mort et de la mort de l'autre, sans l'image de l'autre, sans la plastique de l'autre en soi, je crois moi qu'il faut agrandir ce que nous vivons. C'est aussi en cela que toute religion, pas seulement le christianisme en particulier, agrandit la part humaine. Les athées se privent, les athées sont pauvres, les athées sont fermés, sont obtus, parce que le monde est horizontal, il se prive de l'abîme, dans les deux sens, en hauteur et sous nos pieds, il se prive de la verticalité, Comment regarder un tableau du Greco, de Goya ou de Matisse seulement à l'horizontale? Ces peintures ne prennent leur vraie signification que
s'il y a une spiritualité.
Une spiritualité, que s'il y a, comme dit René Char, la recherche de la base et du sommet. Et Char, qui était athée, a écrit une admirable recherche de la base et du sommet, qui m'a beaucoup nourri. C'est un très grand livre, Recherche de la base et du sommet, parce que j'aime qu'il y ait une base d'où je suis né, mais j'aime qu'il y ait un sommet auquel j'aspire, auquel je m'élève, sans quoi la vie ne vaut rien. Ça ne vaut pas la peine de vivre une vie qui n'a pas cette verticalité. Et toute œuvre, mais toute relation humaine qui est une œuvre aussi en soi, une œuvre charnelle, une œuvre précaire, mais une œuvre aussi. Tout repas, toute salutation, tout baiser donné ou reçu relève pour moi d'un acte et d'un pacte spirituel. Avec l'amour, devant la mort et devant notre finalité qui est la vie infinie, la vie éternelle.
Le verbe choisi de Jacques Chesset qui répondait à vos questions, Serge Carrel. Alors suite à l'évocation de la mort du Christ à la fin de son livre « Un juif pour l'exemple », on sent que Jacques Chesset est très préoccupé par la question de Dieu.
Oui, on le savait préoccupé par cette question, mais rarement on l'a entendu parler ainsi du cœur de la foi chrétienne, de la mort et de la résurrection de Jésus.
Et cette mort et cette résurrection, nous allons continuer de l'évoquer cette semaine, pour cette semaine à vue d'esprit à l'approche de Pâques. Demain, Serge, où est-ce que nous allons?
Alors, en fait, c'est Gabrielle de Sarzan qui reprend le micro et qui viendra vous présenter l'interview qu'elle a réalisée avec Catherine Bernet, la directrice du chœur lausannois Laudate Deum, un chœur qui interprète particulièrement de la musique sacrée.
Rendez-vous à demain donc pour cette deuxième édition d'Avis d'Esprit. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou découvrir quelques références bibliographiques, visitez notre site internet. L'adresse est religion.rsr.ch et Serge, vous y avez placé quelques références.
Oui, vous y trouverez les références du dernier livre de Jacques Chesset, Un juif pour l'exemple, ou les références de celui de Serge Molin, Jacques Chesset et la Bible, qui m'a été bien utile pour la préparation de cette émission.
Merci Serge, merci Madame, Messieurs d'être restés en notre compagnie. Françoise Yenny a réalisé cette émission. Vous pouvez également nous contacter si vous souhaitez nous laisser un commentaire suite à cette émission. Notre numéro de téléphone est le 021 318 60 70.